alors c'est troublant. C'est d'autant plus troublant que les prophètes juifs, bien entendu, avaient fait la même chose. Les prophètes juifs, c'est pas des... Nous verrons, ce sont pas des... Oh, inspirés, certains l'ont été. Je ne dirais pas que les prophètes juifs n'inspiraient pas Dieu, c'est autre chose. L'Australien-Buzo aussi n'inspirait pas Dieu. Alors, en tout cas, la précision de la pronostic et de la prophétie, particulièrement d'Ézéchiel et de Daniel, montrait bien qu'ils se fondaient sur un exemple antérieur. Ah oui, ils se fondaient sur le temps, les 1000 ans qu'ils étaient séparés, qui avaient séparé le taureau, le marbre, le créateur, l'éternel, de la naissance de la justice d'Abraham, des patriarches. Ils se disaient, ça va être la même chose, ça dit comme ça, ça va être la même chose. C'est pas une méthode absurde, elle semble réussie. Etc., je pourrais continuer les numérations, mais c'est pas mon point. Mon propos, c'est est-ce que les prophètes ont été assez simples, assez dépouillés d'orgueil, assez humbles, pour ne pas considérer que c'était, que la prophétie est un problème insondable, que c'est un problème à la portée de l'homme. Et c'est un problème qu'on peut résoudre comme on résout un échec. De la même manière qu'on apprend à jouer aux échecs, qu'on apprend à jouer aux dames, qu'on apprend à jouer aux cibles, eh bien, on peut apprendre à jouer des cibles et à jouer de ce problème à la fois temporel et spatial où se déballe. Et en fait, ce sont des joueurs. Nous savons que ce sont des joueurs. Nous savons que c'est des joueurs. Je vous parlais de l'Apocalypse et des jeux du jeu de Pétain, avec 42 phases. Mais bien avant l'Apocalypse, Ézéchiel jouait aux petits soldats, les petits soldats de moins de Pétain. Quand il prédisait la destruction d'Israël, et de Judas après, il jouait réellement positivement le livre lui-même qui a gagné son livre. Il construit des schémas de Jérusalem ou de Babylone et il joue avec des petites figurines. C'est un jeu sans doute déduit des osselets. Et bien d'autres, je suis moi, je profite aussi, c'est un jeu. La cabale mystérieuse cabale, c'est devenu le jeu des tarots, le jeu des cartes du tarot, les noms qui sont, les quoi ils sont, les règles qui sont, c'est la même chose. Donc ce sont des joueurs. Pourquoi est-ce que ce sont des joueurs? Comment le jeu peut-il permettre d'imposer le problème? Lorsque j'aurai répondu à la question, pas facile. Parce que j'aurais répondu à la question « Qu'est-ce que cela ? Qu'est-ce que c'est être ? Où est-ce ?» Je pourrais peut-être répondre à la question de Dégaire. Mais la question de Dégaire sera devenue « Pourquoi ceci ou cela passe-t-il ou se passe-t-il ? Ici ou là ?» Alors, on essaiera de répondre là à la question. Pourquoi ? Bon, seulement là, après avoir répondu au quoi, au comment, au où, seulement là, on pourra répondre au pourquoi. Pourquoi ? Il y aura trois réponses. Pourquoi ce n'est comme ça ? Parce que c'est comme ça. Parce que ça a toujours été comme ça. C'est la première réponse, parce que c'est comme ça. La deuxième réponse, c'est parce que ce doit être comme ça. Et parce qu'il y a des règles, il y a des lois. Et si on ne respecte pas les lois, on ne comprend rien. Si on respecte les lois, on obtient le résultat cherché. Et la troisième réponse, ce sera parce que ça peut être comme ça. Et cela, ce sera le domaine du jeu. Mais cherchez bien, il n'y a pas d'autre réponse possible à la question de Dieu. Pourquoi est-ce que cela est là plutôt que quelque chose? Parce que c'est comme ça, ou parce que ce peut être comme ça, ou parce que ça peut être comme ça. Alors, je vais vous donner un exemple, avant d'aller plus loin, l'exemple de que j'admire énormément et que, certainement, peut-être le plus grand des phénomènes de ce sujet, et qui est en même temps le plus merveilleux prophète qui existe, ce qu'on rencontre. Rabelais. C'est celui qui a le mieux connu, en tout cas, ce que pouvait être l'esprit. Il a connu le nombre fondamental, très peu connu, cinq étoiles. Il a connu le don du Verseau qui sera foi. C'est-à-dire, vous êtes foi, reçoit, absent, jouit. Il a trouvé le milieu rêvé pour cette liberté, c'est la vie de Thélème. Chacun apporte ce qu'il peut, chacun apporte ce qu'il a, chacun jouit pleinement des bienfaits du ciel. Eh bien, Rabelais a fait mieux que ça. Il a fait, il est seul, des écrivains que je connais, en comptant 6 millions. Il est le seul à avoir fait une prophétie éternelle. Prophétie éternelle. Alors, évidemment, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de date, il n'y a pas de complication, il n'y a pas d'empire successif, babylonien, etc. Non. Comment peut-on prédire à coup sûr l'année prochaine? C'était des almanachs. Donc, l'almanach, c'est la prophétie année par année. Alors, une prophétie éternelle, c'est une prophétie qui va être valable pour tous les ans. Il faudrait se rappeler pour oser ça. Eh bien, il a fait cette prophétie éternelle. Il a dit l'année prochaine, il y a quelle saison? Il a dit, il y aura des malades et il y aura des bien portants. Il y aura des riches, il y aura des pauvres. Il y aura des gens libres et des esclaves. Et les gens les plus heureux ne seront pas forcément les mieux portants ou les plus riches. Et les gens les plus malheureux ne seront pas forcément les plus malades ou les plus pauvres. Etc. Ça continue comme ça. Ils se fondent sur des certitudes. Donc il y a dans la prophétie une part de certitude. Il y a deux certitudes éternelles, enfin éternelles. C'est-à-dire depuis 6000 ans, c'est sûr. Autre que les certitudes rabelaisiennes, qui sont très profondes et qui vont très loin. Il y a en tout cas deux certitudes qui nous touchent de très près. La première, c'est que l'enfant devient un homme. Il y a au milieu de la vie ce sommet, l'adolescence. Que certains pousseront un peu plus tard, à la fin de la jeunesse, à l'épanouissement de la jeunesse, en fait, c'est pas nécessairement. Et puis, il y a eu donc une maturation, une préparation, un acheminement vers ce point. Et après, il y aura peu d'adultes, il y aura peu d'éclats. À la fin, on le voit, pas l'adulte, ça a commencé, c'est génial. Enfin, très tôt. Voilà, organiquement, cellulairement. Il a commencé à dégénérer, ses synapses, ses neurones ont commencé à dégénérer. Ça ne veut pas dire qu'il ne produit pas en plus mieux que l'adolescent, qu'il produit beaucoup plus d'escrocs que l'adolescent, qu'il a beaucoup plus de pouvoir en sociaux que l'adolescent. Mais enfin, organiquement, il a commencé à dégénérer. Et pour finir, il mourra. Ça, c'est une certitude. La deuxième certitude, c'est que l'adulte fait l'enfant. Le père crée et la mère crée l'enfant. Ça, c'est une certitude. Ou peut le créer. C'est aussi une certitude. Il est en puissance, en possibilité de créer l'enfant. Ça veut dire que, quel que soit l'objet vivant, on se parle, il y aura les deux choses à la fois. Il y aura ce que j'appelle, je ne suis pas le premier à l'appeler, mais enfin, ce que j'appelle la civelle qui vit en vie. Vous voyez, elle part forcément là, les sargasses, et elle va venir, la civelle devient en vie. C'est sûr, ça c'est sûr. L'enfant devient adulte. Et puis, il est sûr aussi que l'adulte, dès l'instant qu'il a été élevé, va aller vers sa mort. C'est une certitude, l'anguille va aller vers sa mort. Mais dans l'intervalle, à peu près un peu avant d'avoir créé, de mourir, elle va créer la civelle. L'anguille crée la civelle devient l'anguille. Ça c'est sûr. En fait, ça ne se présente pas comme ça. C'est pas deux êtres séparés. Actuellement, il y a des scientifiques. Je vous citerai le livre du livre de biologie du PUF qui dit oh, c'est de, il n'y a pas de cycle de la langue. Non, non. Il y a deux cycles différents. Il y a deux êtres différents. Il y a la civette et la langue. Alors, comment on ne parle pas de cycle pour ça, bon, et c'est quand même un cycle. C'est quand même un cycle parce que les deux se font en même temps. Parce que vous allez avoir, évidemment, la civelle qui est plus l'anguille, mais en même temps, vous allez avoir l'anguille qui crée la civelle. C'est-à-dire que ce qui nous semblait des successions va se présenter comme des simultanéités. Je ne suis pas encore mort, je suis sur le chemin de mon déclin, mais mon fils, lui, il atteint au point du déclin. Il vit atteint seulement à peine, à 50 ans. Et puis son fils, il est en pleine expansion, il est en pleine formation, il a 50 ans. Puis maintenant, j'ai la chance d'avoir des arrière-petits-enfants. Eh bien, les petits arrière-petits-enfants commencent à peine leur formation. Et c'est en même temps, c'est simultané. Alors comment les choses peuvent être successives et peuvent être simultanées? Voilà un problème intéressant qui est très lié à la prophétie. Mais ce sont des certitudes. Or, les quatre saisons vont arriver. Il y a une autre façon, il y aurait une autre façon d'aborder là, le chemin d'un certain scientisme. Bon, il est certain que l'astrologie a été un moyen de prophétie, surtout dans les temps très anciens, la Sumer, mais aussi en Assyrie, mais aussi dans les temps romains, mais sans doute de nouveau à notre époque, parce que aussi c'est une chose qui revient cycliquement, et l'astrologie connaît les moments où elle est liée et les moments où elle revient à la mode. Bon, l'astrologie est un moyen. Au lieu de faire les cycles du bélier, enfin de la justice, de l'amour, de la liberté, on appellera ça les cycles du bélier, du poisson, du verso, mais c'est la même chose. En sens perceptionnel, les cycles. Bon. Il peut y avoir cette autre sorte de prophétie qu'on appelle le pronostic scientifique, qui est avéré alors que la prophétie ne l'est pas. Qui se trompe beaucoup plus souvent que la prophétie d'ailleurs. Parce que je vous ai donné des exemples de prophéties réussies, mais les pronostics scientifiques qui se trompent, qui les fouettent en nez, et bien qui se sont mêlés les pieds, il y en a beaucoup, hein. À peu près tous les 20 ans, tous les 10 ans maintenant, je ne vois pas tous les 5 ans bientôt, enfin, dans de 10 ans ou moins, dans quelques années, et bien à chaque coup, ça foira. En 1920, le plan de 20 ans russe prévoyait qu'en 1940, on serait l'apothéose. Ça a été la guerre 39-40. À ce moment-là, Staline avait fait d'autres projets pour 20 ans plus tard. Et crac, toute l'Europe faisait des plans pour 20 ans plus tard. Puis 20 ans plus tard, ben, c'était des chars russes en Prague, etc. C'était pas du tout.
à chaque fois comme ça.
Les pronostics de 1950 en France, pour 10 ans aussi, ils avaient tout prévu sur De Gaulle. Ah, évidemment, De Gaulle a changé de situation. Mais les plans Mitterrand ne prévoyaient pas Chirac.
Alors, bon, les pronostics scientifiques, si on peut dire qu'ils se sont
accusés. Pourquoi je me méfie du scientisme? Mais la prophétie, surtout quand elle est maniée par les joueurs, si on rappelle, comme Ézéchiel ou comme l'auteur de l'Apocalypse, ce sont des choses très directes. Ce qu'il faut maintenant, c'est voir comment, ça va être objet pratiquement, ça va être de voir comment les deux choses vont à la fois.
Il y a d'une part la précision de la question.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est être? Où est-ce? Et il y a d'autre part la réponse à la question, parce que c'est comme ça, parce que ça doit être comme ça, parce que ça peut être. Nous allons voir si les deux choses peuvent coïncider. À première vue, ça coïncide. Quand je dis qu'est-ce que c'est que ça, je dis c'est ça, c'est comme ça, je vais. Quand je dis ça doit être comme ça, je dis il y a des lois, il y a une science, il y a une connaissance, une obligation. Et quand je dis ça peut être comme ça, ben, j'ouvre la porte au jeu, évidemment, ces deux sont liés, et en même temps, à ce moment-là, ça veut dire dans quel jeu, à quel jeu est-ce que je joue, aux échecs, ou est-ce que je joue à la pelote? On va essayer d'approfondir.
Mais remarquez déjà, combien tout ce qu'il y a de suspect dans la prophétie, dans le pronostic, dans le pressentiment, et dans tout ce qui est prémonitoire, tout cela qui est confus, qui est vague, qui semble ésotérique, comme on dit, il n'y a aucune, se réduit à des choses très, très simples, très courtes, et à la portée de tout le monde. Parce que tout le monde peut prophétiser, ce n'est pas vrai. Si je ne me trompe pas, et si c'est si simple que je le dis, c'est pas du tout fait, c'est pas les génies, c'est pas les inspirés qui peuvent prophétiser. Et d'ailleurs, nous voyons bien aujourd'hui que les meilleurs prophètes de l'avenir, tout le temps, y compris à notre époque, ça n'a pas été les savants, ça n'a pas été les philosophes, ça n'a pas été les professeurs. Moi, je sais bien, je ne pose pas rappel. Ce que pouvaient dire les professeurs quand ils allaient au lycée ou au PTP, ils n'ont jamais rien dit d'intéressant. Ah oui, seulement les gosses, les enfants, alors ils ont prophétisé, Rimbaud a prophétisé, le savant a prophétisé, l'Aristote-Gallois a prophétisé, Schindler et sa manière a prophétisé. Les enfants de 68 prophétisaient. On dit, ah ben ils ont échoué. Ils ont échoué, ils regardaient dans les rues. Ceux qui bougent encore, ce sont les jeunes et les adolescents. Alors, ce sont les esprits les plus simples, les plus jeunes, les plus ouverts, qui sont capables de jouer, bien sûr, bien plus que les professeurs et les sans-bonnards. Bon. Enfin, nous allons voir aussi pourquoi, parce qu'on va approfondir tout ça, je ne dis pas les cheveux en l'air, tout ça dans le bas. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est ça. Ce qui est, ce que je vois, ou ce que je sens, ce que j'entends, vous l'entendez ma voix. Il y a, c'est ce que je sens, ce qui est du domaine de mes sens. Moi, ce qui est du domaine de mes nombres, parce que je dis un verre, je dis deux objets, et déjà je fais des mathématiques. En fin de compte, les mathématiques sont un objet, sont un aspect de la chose.